Bonjour à toutes et à tous. Toujours une joie de me retrouver là devant vous. Ce matin, je fais une petite rupture avec ma série sur Romains et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Ou à ouvrir vos smartphones qui, évidemment, sont sur silencieux. Premier chapitre de Paul aux Éphésiens. Et je vais lire les versets 15 jusqu'à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans l'âge présent, mais encore dans l'âge à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'ouverture de la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, aux chrétiens de Éphèse. Et après la salutation longue et riche, une prière de remerciement adressée à Dieu, et bien Paul, dans le passage que nous avons lu, il exprime son désir pour les Éphésiens. Il prie quoi ? Il prie que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation qui permette à ces chrétiens de connaître Dieu. Et ce désir, il va l'expliquer, il va décortiquer, expliquer un peu tout ce que ça veut dire dans le passage qui suit. Et donc on va le suivre dans son plan. Paul prie que Dieu accorde aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Je renverse la phrase. Pour connaître Dieu, il faut recevoir de lui un esprit de sagesse et de révélation. Autrement dit, on ne peut pas connaître Dieu sans que Dieu le veuille. On ne peut pas trouver Dieu sans qu'il se laisse trouver. Sur les petites cartes Iconova, il y en a une où je crois que c'est Pascal ou Descartes qui dit « Tu n'aurais pas trouvé Dieu ou tu ne chercherais pas Dieu s'il ne t'avait pas cherché en premier. » Bref, si on devait faire une grande partie de cache-cache géante avec Dieu, eh ben, c'est lui qui gagne à coup sûr. C'est lui qui gagne à coup sûr. à moins qu'il ne fasse exprès de perdre et se laisse trouver. Car il est tout autre, infiniment grand, invisible, éternel, sans début et sans fin. Ça vous arrive peut-être de prendre conscience de l'immensité de l'espace. On a eu des nuits très 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 fraîches, où il y avait de la buée qui sortait de la bouche, et le ciel était pur et impeccable, sans nuages. C'est souvent le cas quand il fait très froid. Et on voyait les étoiles briller. On peut s'imaginer notre planète qui tourne autour du Soleil, qui elle-même tourne dans une galaxie immense, et quand on aperçoit les étoiles, on est déjà dépassé par leur nombre, alors que nous n'en voyons qu'une fraction, et que leur lumière voyage pendant des siècles pour nous parvenir, alors on perd pied de cette grandeur. Eh bien, Dieu dépasse totalement la grandeur du cosmos. Comment pourrions-nous le mesurer ? Alors, pour connaître Dieu, nous avons besoin que Dieu se fasse connaître à nous. Notre raison, notre intelligence ne suffisent pas. Nous avons besoin de recevoir, d'être habités par une sagesse qui vient d'en haut. Nous avons besoin qu'il enlève un voile entre lui et nous, pour que nous puissions le rencontrer. Cela nous conduit à considérer que une rencontre avec Dieu, une relation avec Dieu, en vrai, c'est quelque chose de surnaturel, mystérieux, où la raison et l'intelligence ne peuvent pas tout suivre. J'ai dit pas tout. Il ne faut pas enlever son cerveau et son intelligence pour rencontrer Dieu, comme certains le disent. Moi, je ne cherche pas à comprendre, je marche par la foi. C'est lui aussi qui nous a donné notre raison et notre intelligence. Mais on ne peut pas tout expliquer et on ne peut pas tout comprendre. Mais plutôt, notre raison et notre intelligence sont bouleversées, sont renouvelés par cette rencontre. Sans Dieu, nous pensions et nous fonctionnons d'une certaine manière, et en rencontrant Dieu, notre manière de penser et de fonctionner est transformée. Et si l'on comprend bien ce que dit Paul, il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, rencontrer Dieu une fois, mais d'un chemin de vie où on est sans cesse transformé. Il prie cela à Dieu, que lui-même se fasse connaître, que lui-même choisisse de perdre la partie de cache-cache. Mais rencontrer Dieu, c'est aussi reconnaître qu'il existe une partie invisible du monde, bien réelle. Rencontrer Dieu, c'est se soumettre, abandonner le contrôle de la relation, puisque cette relation, elle ne peut avoir lieu que si lui le veut bien. Rencontrer Dieu, c'est donc accepter à nouveau, peut-être, une place de créature face au Créateur. Mais un Créateur qui aime perdre toutes ses parties de cache-cache. Comme il est dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Ce sont les mots que le prophète Jérémie écrivait au peuple en lui disant qu'après les 70 années d'exil à Babylone, Dieu ramènerait les captifs et se laisserait trouver par eux. Paul va ensuite développer cette connaissance de Dieu. Il continue cette prière en disant ces mots que je trouve magnifiques, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous saviez que votre cœur avait des yeux ? Saint-Exupéry le savait, l'auteur du Petit Prince. Le secret que le renard offre au Petit Prince avant de le quitter est celui-ci. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Cela confirme bien que nous sommes appelés à recevoir une connaissance surnaturelle, ou qui dépasse en tout cas l'intelligence et la raison. Et cette illumination des yeux du cœur, pour Paul, elle veut conduire à trois choses, trois connaissances. Paul les liste très clairement. Ah, il y a un problème ? Hein ? Ah, vous n'avez pas été bavard. Celle de l'espérance attachée à l'appel du Christ. Quand Christ nous appelle, il y a une espérance. Quand Christ nous appelle, c'est pour aller quelque part. Qu'est-ce que c'est ? Deuxième chose, et c'est peut-être le plus mystérieux, la richesse de son héritage au milieu des saints. C'est ça l'expression de Paul, hein ? Quelle est la richesse de son héritage au milieu des saints ? Ça fait très très mystérieux. On développera ce que c'est plus tard. Et troisièmement, quelle est la grandeur de sa puissance envers nous ? Je dis souvent, avec les cathés, il y a deux choses dont on a besoin d'être sûr vis-à-vis de Dieu. Premièrement, est-ce que Dieu est bon ? Parce que s'il est mauvais, on est fichu. Deuxième chose, c'est, bon, ok, en admettant qu'il est bon, est-ce qu'il a la capacité de nous faire ce qu'il veut nous faire ? Si Dieu te dit, ben, je veux te ressusciter, ok, est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que tu es capable de vraiment de me ressusciter ? Est-ce que Dieu est bon ? Est-ce que Dieu est puissant ? Et quelque part, parmi les trois choses que Paul veut nous rappeler, il y a cette première chose, est-ce que Dieu est bon ? Quelle est l'espérance qui est attachée à son appel ? Où tu nous emmènes en fait ? C'est quoi ton plan pour nous ? Et la deuxième, quelle est la puissance de Dieu ? Et est-ce que ce plan pour nous, tu as les moyens de le réaliser ? Est-ce que vraiment tu peux le faire ? Tu peux faire en sorte que le monde soit restauré ? Alors Paul le dit justement avec beaucoup d'adjectifs superlatifs, beaucoup de trucs pour nous faire comprendre l'immensité de la puissance de Dieu. Il dit que cette puissance de Dieu, ben Dieu, il l'a prouvé. Il l'a prouvé une fois pour toutes quelque part dans la vie de Jésus. Jésus a été ramené du royaume des morts au royaume des vivants. Démonstration de la puissance de Dieu. Ce mur infranchissable pour nous. Cette limite qui nous tient captifs. Jésus a été totalement plongé dans le séjour des morts et totalement revenu dans le monde des vivants. Ce n'est pas tout. Parce qu'on a vu aussi dans la vie de Jésus que le diable a déchaîné toutes ses stratégies, toutes ses cartouches, toutes ses armes pour essayer de faire basculer Jésus dans l'autre camp pour qu'il pêche, ne serait-ce qu'une fois, qu'un instant, en pensée. Et alors on aurait été fichu, le salut aurait été rendu impossible, mais en vain. Jésus était habité, rempli de ce qu'on appelle la plénitude de Dieu. Toute la présence de Dieu était en lui. C'était le champion de Dieu, l'invincible, l'incorruptible. Alors on dira, oui, il a fini sur une croix, terrassé par le mal. Non, non. Il s'est offert lui-même. Et aucune des stratégies du diable n'a pu le faire basculer dans le côté obscur, comme diraient mes enfants. Puissance de Dieu. Voici quelle est la grandeur surabondante, pour reprendre les mots de Paul, qu'il déverse envers nous. Mais ça nous est difficile à croire, ça nous est difficile à vivre que cette puissance-là est là, déposée en chacun d'entre nous par son esprit. On a du mal à croire que nous avons accès à cette réserve-là pour choisir de demeurer ou de retourner à chaque instant dans le camp de Dieu. Et malgré tout, cette puissance-là qui est déposée en chacun de nous vous ramènera, me ramènera du séjour des morts à la vie, quand Jésus reviendra. Ça, c'est pour la puissance de Dieu. Je saute le deuxième point, l'héritage des saints. Et je vais voir un peu plus loin, au verset 19, quelle est la grandeur sur... Pardon, le premier, quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Et il en parle encore dans la suite. Après être revenu de la mort à la vie, Jésus n'est pas resté parmi nous. Il a passé 40 jours avec ses apôtres, et puis il est remonté au ciel. On appelle cet événement l'ascension, pas l'assomption. Ça c'est nos frères cathos avec la Vierge Marie. Nous, c'est l'ascension du Christ qui précède la Pentecôte. Il est passé du monde visible au monde invisible. Dieu l'a nommé roi des rois, souverain de toute la création. Il lui a donné la plus haute fonction humaine possible, celle qui était destinée à Adam, le trône de la création. Aujourd'hui, c'est un humain qui règne sur le monde, en notre faveur, même si, j'avoue, on ne perçoit pas vraiment qu'il règne. Christ, nous dit Paul, a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et voilà votre espérance. Le trône de Jésus, c'est aussi le vôtre. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il a dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ah, donc on va aller là-haut. Espérance auprès de Dieu. J'aimerais explorer avec vous toute l'amplitude de cette espérance auprès du Seigneur, du fait que nous allons hériter de son héritage, mais ça prendrait trop de temps. Alors, nous sommes propulsés, nous sommes placés entre ces deux réalités, la résurrection de Jésus et le retour de Jésus. Je dis réalité parce que la date du retour de Jésus est déjà fixée. Moi, je ne la connais pas. Certains disent que c'est très proche, mais elle est déjà fixée. Si Dieu avait une cuisine et que dans sa cuisine, il y avait un frigo et que sur son frigo, il y avait un calendrier, il y aurait déjà, vous tournez les années, je ne sais pas combien il faudrait en tourner, mais il y aurait à un moment une date. The D-Day. Ce jour-là où il reviendrait. Et l'Église, c'est le peuple de Dieu entre ce moment où Jésus est remonté au ciel et ce moment où Jésus redescend. C'est nous. On a cette puissance de Dieu qui a été manifestée quand Jésus est ressuscité des morts, a vaincu le diable et est remonté au ciel. Et on a cette espérance de Dieu quand Jésus va revenir pour nous apporter tout ça sur la terre. Vous voyez ? Puissance de Dieu à notre égard, l'espérance de Dieu pour son appel. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Mais entre les deux, c'est la question compliquée de quel est l'héritage glorieux de Christ au milieu des saints ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la richesse de son héritage au milieu des saints ? Ok, héritage, ça concerne ce que Jésus possède et qu'il partage avec ses frères et sœurs. Ok. Au milieu des saints, ça doit être nous. Mais ça parle de quand ? Là encore, Paul développe cette idée. Dans les versets obscurs, 21 et 22, il dit « Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, avec cette phrase bizarre, la plénitude de tout en tous. Bon, ok. Christ, roi des rois, ça va. Christ, chef de l'Église, la tête de l'Église qui est son corps. La tête de l'Église qui est son corps. On est habitué de cette idée-là. Vous êtes le corps du Christ ? Jésus, la tête du Christ, de l'Église ? Ok. Mais Paul combine cette idée avec une nouvelle idée maintenant. Au moment où Jésus s'est fait baptiser, vous savez ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est apparu ? Une colombe. La plénitude, c'est-à-dire tout l'Esprit Saint est venu en lui. Ouais ? Ça va ? Ça va ? Moi j'ai reçu l'Esprit Saint, vous avez reçu l'Esprit Saint, gloire à Dieu. Mais est-ce que j'ai tout l'Esprit Saint ? Comme Jésus. Donc, l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe, et l'Esprit Saint habite quoi ? Son corps. L'Esprit Saint habite son corps. La plénitude de Dieu habite son corps. Mais c'est quoi le corps du Christ aujourd'hui ? C'est nous. Donc, tout l'Esprit Saint habite dans le corps de Jésus, et le corps de Jésus, et Dieu a donné Jésus comme chef de l'Église pour que l'Église soit son corps. Et toute la plénitude de l'Esprit habite le corps. Vous voyez un peu où ça en vient ? Ça veut dire que, au milieu de nous, qui sommes l'Église, il y a toute la plénitude de l'Esprit qui est là. Une vraie puissance qui est là. Et je ne vous dis pas une puissance pour transformer le monde comme on voudrait qu'il soit, mais comme Jésus, pour traverser le monde sans être corrompu, sans succomber au mal, sans choisir l'autre camp, mais en restant fidèle, un espèce de guerrier de la lumière, incorruptible, mais dont on peut terrasser le corps. Comme Jésus était incorruptible, on a pu terrasser son corps. Cette puissance-là, je veux dire, qu'on admire chez Jésus, mais on n'est pas sûr de vouloir vivre la même chose. Je vous amène dans Colossiens, parce que Paul dit la même chose dans Colossiens, mais un petit peu différemment. Il y a ce poème dans Colossiens qui dit... Quoi ? Quel passage ? Colossiens, je ne sais plus. Philippiens, Colossiens. Colossiens 1, 15. Christ est l'image visible du Dieu invisible, dit Paul, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'Église. Ah, on retrouve ça. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être le premier en tous. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Ah, on retrouve cette idée de tout Dieu qui habite dans le corps de Jésus. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Magnifique idée. On retrouve donc que Jésus est la plénitude de Dieu en lui. On retrouve que Jésus se trouve dans l'Église et qu'elle est son corps. Et on découvre que, en Jésus... Et donc, en l'Église, les cieux et la terre sont réconciliés. Les cieux et la terre sont réconciliés, ça veut dire quoi ? Il y a un combat spirituel, n'est-ce pas ? Et ce combat spirituel, il n'est pas bêtement, ben, tout ce qui est invisible est dans le camp de Dieu, puis tout ce qui est visible, c'est dans le camp du diable. Tout ce qui est matériel, manger le chocolat, c'est mal. Tout ce qui est spirituel, c'est bien. Non, 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 non. Il y a des choses matérielles qui glorifient Dieu. Il y a des levées de soleil qui glorifient Dieu. Il y a des tasses de thé ou de café partagées entre amis qui glorifient Dieu. Et puis il y a des pensées invisibles, des fantasmes du cœur qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des forces spirituelles, des démons qui ne glorifient pas Dieu et des anges qui glorifient Dieu. Il y a une fracture dans tout le monde. Il y a une fracture au sein du monde invisible, il y a une fracture au sein du monde visible. Et vous, vous la vivez cette fracture dans ce corps que vous avez qui peut glorifier le Seigneur mais qui vieillit et qui est condamné à la mort et qui porte la marque du péché. Fracture dans votre corps, fracture dans votre cœur entre vos pensées qui tantôt peuvent bénir Dieu et l'instant d'après maudire ce frère ou cette sœur qui vous saoule. Mais nous voici plongés dans le corps de Jésus. Et dans le corps de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Les cieux et la terre, tout est réconcilié. Il n'y a plus de fracture entre le visible et l'invisible. Plus de fracture entre les choses que je maîtrise et les choses que je ne vois pas. Alors voilà, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Christ au milieu des saints? C'est ça, cette vie nouvelle de Jésus qui est là au milieu de nous en libre accès total. Si c'est une idée qui est compliquée pour vous, on va le vivre très concrètement là, à la Sainte-Seine. Vous allez vous emparer du corps et du sang de Jésus pour vous les approprier. Et c'est cette vie nouvelle, cette vie capable de choisir tout le temps le camp de la lumière, cette vie capable de refuser la corruption, cette vie capable de réconcilier les choses invisibles et les choses visibles, les choses fracturées pour les amener dans la paix de Jésus, la paix de Dieu, qui réconcilie le monde entier. Cette vie-là, vous allez la saisir et la manger. Et elle va être en vous. Et cette semaine, vous allez l'utiliser. C'est comme un crédit. Il faut qu'à la fin de la semaine, vous ayez épuisé le crédit. C'est pas possible de l'épuiser, mais essayez quand même. Ah, Seigneur, je puise dans ta vie là pour réagir comme il faut. Seigneur, je puise dans ta vie là pour faire un kilomètre de plus. Seigneur, je puise dans ta vie là pour prendre soin de moi. On n'a pas le temps. Parce que là, je vais vous amener dans le concret maintenant. Et pour ça, je raconte deux anecdotes. Quand je préparais cette prédication, dans la famille, il y avait une pression. Pas des tensions forcément entre nous, mais une pression, l'ambiance était lourde, l'atmosphère était pesante. Et je me suis levé, je suis allé dans ma cuisine et j'ai préparé de la pâte à gaufres. Avec amour. C'était pas juste de préparer de la pâte à gaufres pour faire un bon goûter, c'était préparer de la pâte à gaufres pour les bénir. C'était une posture spirituelle. Je rejoignais, je réconciliais, j'associais, préparais un bon goûter et influençais ma famille dans le domaine spirituel. Je réconciliais les cieux et la terre. Est-ce que je peux pousser ce pupitre là? Parce qu'il est physique. Mais est-ce que je peux pousser sur quelque chose de spirituel? Est-ce que je peux prendre une posture et avoir une attitude qui va apporter un certain parfum, une certaine tonalité à ce qui se passe autour de vous? Et la réalité, c'est que oui, mais nous avons du mal à le croire, à le vivre, parce que c'est invisible. Et voilà cette plénitude que je suis appelé à vivre. Lorsque je me lève pour préparer le petit déjeuner, lorsque je salue mes voisins, lorsque je fais mes courses, lorsque je décroche le téléphone et que je tombe sur ce téléopérateur qui veut me vendre un devis gratuit pour la charpente de ma maison, je peux le bénir. Les cieux et la terre sont réconciliés en Christ, lui, l'homme Dieu, devenu roi de la terre qui règne dans les cieux. Et moi, je suis en Christ et Christ est en moi, l'héritage glorieux au milieu des saints. Alors comment je vis cet héritage ? En préparant des pâtes à gaufres pour bénir. Je ne parle pas d'être gentil. Je ne parle pas uniquement de réconforter mes enfants, mais d'agir spirituellement pour mon foyer. Certains d'entre nous auront ce chemin à faire de réconcilier la gaufre avec le spirituel pour bénir. D'autres auront à prendre un autre chemin. J'ai visité une dame il n'y a pas très longtemps. Alors, pour l'encourager dans sa vie, je lui parle de mes gaufres spirituelles. Et elle me dit, mais je connais ça. Mais je fais des crêpes pour mes petits-enfants. Et le problème, c'est pas de bénir les autres, c'est que je suis vide, moi. Et oui. Il ne suffit pas simplement de donner, il faut aussi recevoir. Encore une fois, vous allez recevoir là. Si vous avez du mal à recevoir dans votre semaine, là, vous allez recevoir concrètement la scène. Alors, une nouvelle image se crée. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de se nourrir. Et puis, elle me dit, mais presque dans les deux sens du terme, ce n'est pas facile de se nourrir, spirituellement, mais physiquement aussi. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de vivre seul. Mais moi, quand Camille s'en va, je mange plus vraiment. Et c'est pas que j'ai pas envie de manger, c'est qu'en fait, je sais pas, je mange pas quand je suis tout seul. Alors je finis les restes, toi. Ou j'invite des gens. Parce que c'est plus facile de préparer à manger pour quelqu'un d'autre que soi que de se préparer à manger pour soi-même. Mais là aussi, il y a une réconciliation spirituelle à vivre. De la même manière que ces gaufres, je vais les préparer pour bénir ceux qui m'entourent. Je peux dire, Seigneur, ce soir, je prépare un petit bœuf carotte pour que tu me bénisses et pour que tu manges avec moi. Et on va réconcilier les cieux et la terre aussi dans ce temps où je vais accepter que Dieu me bénisse. Reconnaître que j'ai de l'importance. C'est facile de préparer pour les autres qui sont importants, mais est-ce que moi je suis important ? Est-ce que moi je peux m'accorder du temps pour ? Et c'est plus difficile. Mais là aussi, on peut réconcilier les cieux et la terre, très concrètement. Là aussi, on peut aller chercher, puiser ce glorieux héritage de Jésus-Christ au milieu de nous. Je soigne et je chéris ce corps, Seigneur, que tu habites par ton esprit. Tu en as fait une pierre vivante de ton temple. Viens manger ce repas avec moi, parce que j'ai soif de toi. Le Christ est là présent au milieu de nous, toutes choses lui sont soumises, et lui-même a été donné comme tête de l'Église. De lui, de la tête, coule toute la plénitude dans son corps, c'est-à-dire en nous. Frères et sœurs, ce sont peut-être des paroles étranges pour vous, mais je vous parle d'une réalité plus solide que cette pierre sous mes pieds. Vous êtes habités par une puissance spirituelle. Peut-être que vous ne soupçonnez pas, et moi, je pense que je l'envisage à peine. Nous avons besoin d'une sagesse qui vient d'en haut, d'une révélation de Dieu pour nous en apercevoir, qui nous laisse distinguer son pied sous le rideau, la partie de cache-cache, pour que ces choses invisibles deviennent concrètes à nos esprits, que nous assumions que nos actes, nos paroles, nos postures agissent dans le monde physique, dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde invisible. Que Dieu nous y conduise toutes et tous. Amen. Il est midi, alors pardon, j'ai traîné. S'il y en a qui veulent partir maintenant, je suis désolé, ils rateront la Sainte-Seine, mais c'est ma faute et je vous demande pardon.